Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Bonjour à tous, bienvenue dans l'instant M.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Émile Zola est à la une du journal, non pas pour un nouveau j'accuse, mais pour célébrer les couleurs des légumes. Salade, lettuce, carole, des empilements de romaine qui chantent toute la gamme du vert. Un extrait du Ventre de Paris, à lire cette semaine en première page du 1, sous le titre « Et si on mangeait local ?» Convoquer Zola pour parler d'actualité, mais aussi des écrivains d'aujourd'hui, hein, bien vivants. C'est la marque de fabrique de cet hebdomadaire qui se déplie comme un origami. Et ça marche, hein. En 4 ans, le 1 a rencontré son public. Preuve qu'on a besoin du regard de la littérature. Que devient l'actualité quand les écrivains s'en emparent ?
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Dorothée Barba.
Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour Dorothée.
Ancien pilier du journal Le Monde, on va parler ensemble hein, du 1, de votre hebdomadaire et de la revue America aussi. Alors je parlais d'un journal origami qui se déplie. Vous aggravez votre cas hein, avec ce hors-série sur Clémenceau. Là c'est le tigre, je le déplie.
Voilà,
c'est le tigre grandeur nature. Hein.
Oui, on met... Une époque, une publicité disait « mettez un tigre dans votre moteur », là on l'a mis dans notre journal. Et effectivement, on a pris la une d'un journal satirique hein, de 1915, d'un journal de tranchée qui s'appelait « La Baïonnette ». Et on a un tigre extraordinaire. Donc au moment où on lit l'information sur les smartphones, nous, on est contre la miniaturisation et on fait de plus en plus grand.
Et c'est indépliable dans le bus. On sera en ligne dans un instant aussi avec Gérard Miller, cofondateur du Média, chaîne de télé fondée par des proches de Mélenchon, qui traverse une zone de turbulence ces jours-ci. Noël Mamère a claqué et la porte, mécontent de la manière dont on aborde le conflit syrien sur la chaîne. On en parle, mais d'abord quelques mots sur le marché des médias qui est en pleine ébullition. Avec une OPA qui a surpris son monde hier, Comcast a lancé une offre publique d'achat sur Sky. Comcast, c'est un opérateur américain du câble, propriétaire notamment de la chaîne NBC et des studios Universal. Et Sky, c'est un groupe de télé britannique qui diffuse notamment le très convoité championnat de foot anglais. Alors c'est donc un géant américain qui veut racheter un britannique très présent en Europe, mais pas en France. Montant de cette offre d'achat, 25 milliards d'euros. Cette offensive résonne comme un défi lancé à ceux qui convoitait déjà Sky, le groupe Disney d'abord, mais surtout Rupert Murdoch, le super patron de presse, propriétaire de Fox. Murdoch possède déjà une partie de Sky, il avait l'intention d'acheter le reste. On attend maintenant l'avis de l'autorité britannique de la concurrence. Autre offensive, cette fois devant la justice française. Canal+ attaque TF1 devant le tribunal de commerce de Paris. La une demande en effet à Canal de payer pour pouvoir continuer à diffuser ses chaînes gratuites. Maxime Saada, le patron de Canal, y voit du chantage. Il l'a dit dans les colonnes du journal du dimanche. C'est donc un nouveau front qui s'ouvre contre TF1, déjà engagé dans un bras de fer avec Orange. Orange refuse aussi de régler les sommes demandées par TF1. Bref, le feuilleton n'est pas terminé. Et bonjour Gérard Miller.
Bonjour.
En direct, au bout du fil, cofondateur du Média, chaîne de télé disponible sur Internet. Alors, le départ de la présentatrice du JT, Aude Rossigneux, a suscité beaucoup de commentaires ces jours-ci. La journaliste a parlé d'un limogeage brutal. Et il a été suivi du départ de Noël Mamère, qui travaillait aussi hein, pour cette chaîne de télé proche des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon. Noël Mamère est choquée par le traitement médiatique du conflit en Syrie sur la chaîne. Est-ce que vous êtes d'accord, Gérard Miller, avec votre correspondant au Liban, qui renvoie dos à dos Bachar el-Assad et ses adversaires?
Alors peut-être quand même peut-on dire le contexte simplement. Pendant les 3 mois de lancement du média, les grands médias nous ont soupçonnés en permanence de vouloir créer une télévision de type nord-coréen. Bon, c'est-à-dire fort peu préoccupé par le débat démocratique. Bon, maintenant, on a la gentillesse de nous comparer à Bolloré. Je pense que c'est un progrès par rapport à Kim Jong-un.
Ça, c'est Aude Rossigneux, effectivement.
C'est peut-être un peu décevant pour nous. Lorsque, par exemple, Noël, ma mère, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, m'a dit qu'il souhaitait arrêter, il m'a dit « je vais partir sur la pointe des pieds
bon, ». De c'est
fait,
raté.
Vous parlez plutôt qu'il a claqué la porte. Je vais vous répondre sur la Syrie. Je lui ai dit « Noël, mais viens sur le plateau et viens dire le point de vue contraire ». Notre débat est ouvert. Notre correspondant a tenu des propos que je vais résumer pour vos auditeurs parfaitement mesurés à mon sens. Il n'a pas du tout minimisé le côté bouché de Damas. Et si vous voulez que je vous rassure en vous disant qu'évidemment c'est un dictateur, évidemment que c'est une personne absolument monstrueuse. Je vous le dis, notre correspondant a dit simplement que les images que nous avions reçues des épouvantables massacres dans cette ville encerclée, que nous ne savions pas l'origine, et que notamment c'était frappant de voir qu'on parlait tout le temps des rebelles, sans signaler que la plupart d'entre eux pouvaient appartenir à des groupes islamistes. Il n'a donc pas renvoyé dos à dos les uns et les autres, il a simplement posé la question de savoir d'où venaient ces images.
Est-ce que ça signifie, Gérard Miller, que ceux qui diffusent ces images versent, selon vous, dans le sensationnalisme ?
Écoutez, est-ce que vous pouvez me dire, vous, d'où viennent ces images ? Je ne pense pas que vous pouvez le dire, et ça n'est pas dramatique. On s'interroge simplement sur le fait que sur ces images, on ne voit jamais un combattant en armes, ce qui est paradoxal, même si le plus important, c'est les souffrances des populations. Donc, nous faire le procès qu'on nous a déjà fait dans le passé, du genre, vous minimisez les crimes de Bachar el-Assad, je trouve ça infâme. Vous voulez que je redise ce mot, c'est infâme. Nous sommes effectivement pour ne pas immédiatement céder à la pression médiatique. Mais pas seulement sur la Syrie. Je prends un exemple qui vous concerne, vous, France Inter. Lorsque, par exemple, Radio France fait une cellule d'investigation pour parler des comptes de campagne, le soir même, nous n'en parlons pas dans le média et on nous dit « Ah ah, vous ne voulez pas en parler ». Eh bien, j'annonce à vos auditeurs que, fort heureusement, les deux journalistes de la cellule d'investigation de Radio France ont accepté de venir dans une émission que je vais moi-même animer pendant trois quarts d'heure sur les comptes de campagne de Mélenchon. Laissez-nous, aux médias, avoir notre rythme et ne pas nous ranger strictement sur la façon dont vous, grands médias, et vous en avez parfaitement le droit, fonctionnez. Vous avez immédiatement conclu un certain nombre de choses de ce qui se passait en Syrie. Nous, nous voulons prendre simplement le temps. Mais cessez de nous faire le procès que nous serions le moins du monde insensibles aux souffrances des populations civiles.
On sera au rendez-vous hein, pour écouter les journalistes de Radio France sur ces comptes de campagne de Mélenchon. Puisque vous en parlez, un dernier mot rapidement sur le billet de Mélenchon dans son blog. Vous l'avez lu sans doute, je le cite. « La haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine. » Comment le fondateur d'une chaîne de télé que vous êtes, hein, Gérard Miller, réagit à ces propos ?
Alors, ne me demandez pas d'être le porte-parole de Mélenchon, même si j'ai voté.
Le patron d'une chaîne de télé.
Je ne le regrette pas. Je vous dis simplement qu'il y a effectivement, et c'est à ça sans doute que Mélenchon fait allusion, il y a un vrai problème entre les médias et l'opinion publique. Et ce problème se traduit effectivement par des sentiments particulièrement violents que je regrette. Je n'aime pas du tout la façon dont beaucoup de Français, et notamment de jeunes, ressentent la position des journalistes et des médias. Nous voulons justement, dans le média, faire en sorte non pas de réhabiliter, on n'a pas les moyens, le journalisme, mais on veut justement engager un débat avec vous, journalistes de grands médias tellement plus puissants de nous, pour qu'on comprenne comment vous fonctionnez. Quand vos journalistes, par exemple, de la cellule d'investigation vont venir, ils auront tout le temps de nous expliquer comment ils fonctionnent, pourquoi ça choque à l'occasion certains de voir que peut-être des conclusions trop hâtives. Donc, ne me demandez pas d'encourager le moins du monde, la haine est un mot très fort, la haine ou l'antipathie qu'on a pour les médias.
Mais le mot n'est pas de moi, je précise, il est de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, oui, bien entendu. Mais prenez au sérieux, vous journalistes, pourquoi en effet y a-t-il cette défiance à votre égard et pourquoi le média TV.fr est-il devenu nécessaire ? Il est devenu nécessaire parce que la plupart des gens ne se reconnaissent pas dans les grands médias. Et encore une fois, je peux le dire sur France Inter, parce que ces grands médias sont possédés par 9 milliardaires, et vous pouvez me raconter ce que vous voulez sur l'indépendance des médias. Moi, je crois une tête simple. Celui qui paye l'orchestre choisit la musique. Et je pense effectivement qu'il y a un vrai problème d'indépendance des médias dans ce pays.
Merci beaucoup Gérard Miller d'avoir réagi en direct sur France Inter. Très bonne journée à vous.
Merci.
L'instant M, l'actualité des médias. Sur France Inter.
Éric Fotorino est mon invité ce matin, patron et fondateur du 1 journal hebdomadaire. Quel est votre regard sur cette question des images en Syrie d'abord ?
Je pense que ce qu'a dit Gérard Miller est juste, c'est que la question de la source se pose. Aujourd'hui, vous savez, on peut faire avec l'intelligence artificielle des vidéos de choses qui n'ont pas existé et vous croyez qu'elles existent. Donc je pense que c'est un défi qui est posé à notre profession, non pas dans des années maintenant, mais il faut quand même rappeler que pendant la guerre du Golfe, les journalistes étaient embedded et les images que l'on voyait, c'était les images que l'armée américaine voulait bien qu'on diffuse. Donc je pense qu'il faut effectivement être prudent. En même temps, il y a des images quelquefois qui ont fait arrêter des guerres. Le Vietnam, ça a été le cas. Quand elles sont choquantes, je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les montrer.
C'est ce que dit dans une tribune le patron de l'AFP, l'agence France Presse au Moyen-Orient et en Afrique. Tout le boulot des journalistes, d'une rédaction, c'est bien de vérifier ces images. Voilà. Et lui, il certifie que les photos qu'il publie, les bombardements de la Ghouta orientale sont des photos attestées qu'il a vérifiées et dont il est certain. C'est tout simplement le métier de journaliste.
Alors, hein, il faut les publier et il faut des mots avec. Mmh. Il faut toujours du contexte.
En parlant d'image, vous que beaucoup surnomment photo, vous avez choisi en créant le 1 de ne pas mettre de photos dans le journal ou très peu.
Très peu.
Pourquoi ce choix ?
D'abord, on a voulu avoir un choix graphique, c'est-à-dire que le 1, c'est d'abord un objet. Et cette ambition graphique, elle est portée par des dessinateurs, par des artistes, très largement, des écrivains, mais aussi des dessinateurs, des peintres, comme Nicolas Vial, qui a réalisé ce magnifique portrait de Clémenceau dont vous parliez tout à l'heure. Mais les photos, on les publie quand elles ont vraiment du sens. Récemment, Samuel Gratacap, un jeune photographe, a publié des photos dans le 1 sur les migrants dans la vallée de la Roya. C'est évidemment, ça avait du sens et c'est des photos qu'on a publiées, comme on dit dans le jargon, plein pot. Donc on leur a donné cet espace-là.
Alors, à quoi sert la littérature, Eric Fottorino ? Trop vaste question, hein, que l'on peut réduire. On va la réduire pour tenter d'y répondre. À quoi servent les écrivains face à l'actualité ? C'est la question qui vous anime ?
Oui, si vous voulez, quand on a créé le 1 avec Laurent Grelsamer il y a 4 ans, on voulait faire un journal qui nous ressemble un peu. C'est-à-dire que nous, on était à la fois des auteurs et des journalistes. Et on s'est dit, pourquoi toujours choisir ? Je pense qu'il y a du rationnel, il y a de la raison et il y a du sensible. Eh bien, on a voulu faire entendre cette voix du sensible. Le premier numéro du 1 qui était comme un manifeste, c'était Jean-Marie Le Clézio qui a écrit sur La France fait-elle encore rêver, et Raymond Depardon qui a légendé à la main ses photos sur La France qui le faisait plus ou moins rêver. Donc ce manifeste, je dirais, ça fait maintenant presque 200 numéros du 1 qu'on le décline, et les écrivains sont là parce que d'une part, quand on dit presse écrite, c'est une banalité, mais il faut le rappeler, elle doit être bien écrite. Je pense que les écrivains respirent l'air à travers les mots, et ces mots-là ne sont pas les mots des journalistes, ils ne sont pas supérieurs. Ils sont différents. Et donc, je pense, si vous voulez, qu'un texte d'un écrivain est toujours, quand c'est un grand texte, c'est toujours un texte d'actualité, c'est-à-dire qu'il résonne, et il résonne longtemps. Et donc, on a voulu introduire dans ce monde éphémère de l'actualité le durable de la littérature.
Alors, ce rapprochement entre littérature et journalisme, c'est un retour aux sources, hein, plutôt qu'une nouveauté. On pense évidemment à Joseph Kessel, à Albert Londres et à Colette, des grands écrivains, oui, reporters. Le journalisme peut-il supporter une dose de fiction, à votre avis ?
Alors, je pense que le journalisme, c'est vraiment dire le réel, et même j'irai un peu plus loin, c'est être bousculé par le réel. C'est accepter que les préjugés qu'on peut avoir, même s'ils sont doux, ils sont pas trop anguleux, ces préjugés doivent être bousculés, doivent être remués. La littérature, les écrivains qui arrivent avec la fiction, ils arrivent aussi avec leur imaginaire, leur capacité à restituer un dialogue, à voir sur une personne ou sur un lieu comment il est fait, comment il se présente. Ben, le regard, c'est Émile Zola dont on parlait tout à l'heure, qui disait une bonne description vaut un discours, vaut tous les discours.
Et moi, oui, mais je pense... ce mot imaginaire que vous employez, il fait peur quand on parle d'actualité et de journalisme.
Alors, si vous voulez, c'est vrai que imaginaire, ça veut dire tout d'un coup, ben, c'est faux, c'est quelque chose. Mais précisément, je pense que les écrivains sont ceux qui, parce qu'ils se collettent chaque jour avec leur imaginaire, perçoivent mieux le réel. Et vous savez, on parle beaucoup de l'autofiction, il y a beaucoup de, dans la littérature, c'est par le mensonge ou par le faux que l'on dit le vrai, le mentir vrai d'Aragon. On peut tout à fait l'appliquer à la littérature, c'est-à-dire vous pouvez raconter des scènes, vous pouvez raconter des dialogues. Quand vous lisez dans une autre de nos publications qui s'appelle America, un entretien passionnant entre Tom Wolfe et Gay Talese, que dit Gay Talese ? Il dit, c'est donc fondateur de ce journalisme justement différent de narration où la fiction a une part, il dit il faut écrire des dialogues intérieurs, imaginez ce que pense celui que vous avez en face de vous et le restituer. Donc je pense qu'il y a là ce qu'un journal doit être. Il ne doit pas être seulement le reflet de la société, il doit en être le révélateur. Et le révélateur de la société, ben, il faut l'inventer avec des mots.
Alors 4 ans après sa création, le 1 compte 35 000 lecteurs, hein, c'est ça ? 35 000 personnes qui déplient chaque semaine votre journal,
oui.
20 000 abonnés, c'est bien la preuve qu'il y a une demande pour ce journalisme-là. Vous êtes à l'équilibre financier,
oui.
C'est déjà miraculeux, on peut le dire ?
Depuis 2 ans. Ben, disons, c'est un miracle de chaque jour ou de chaque semaine. Et effectivement, le fait que des 35 000 acheteurs, hein, je précise, c'est pas du gratuit, aillent donc se procurer cette feuille qu'on plie en 3. Donc, on pourrait dire que c'est une farce. Et finalement, non, parce qu'ils ont vu que c'était pas un gadget, qu'ils y trouvent là, je pense, de quoi s'inspirer. Moi, je dis souvent, c'est pas un journal d'information, c'est un journal d'inspiration. On trouve des idées.
Et vous êtes devenu, vous le disiez aussi, une plus petite maison d'édition qui édite notamment cette très belle revue America, l'Amérique racontée par les écrivains. Dans le numéro 4 qui est en vente actuellement, on lit un texte inédit de Stephen King sur les armes à feu aux États-Unis. Un texte écrit avant la tuerie de Floride. et c'est vertigineux à quel point ça raconte la Floride, Eric Fotorino.
Oui, alors ça, c'est évidemment la capacité qu'a François Bunel de se procurer ces textes-là, d'avoir la confiance des auteurs, des plus grands auteurs américains, pour qu'on puisse les publier dans America. Oui, ben, si vous voulez, je pense que Stephen King, il raconte une histoire incroyable. Il a écrit quand il était adolescent un roman qui a été traduit sous le titre Rage. Et une fois qu'il a eu publié 10 best-sellers, il a finalement publié ce roman. Et dans les années qui ont suivi, dans 5 occasions, des tueurs, des preneurs d'otages se sont référés à ce roman qui les avait inspirés. Et donc Stephen King a demandé que ce roman soit retiré de la vente. Donc si vous voulez, vous imaginez bien cette espèce...
Mais il ne s'est jamais excusé, il le précise.
Non, il dit qu'il n'a pas à s'excuser, qu'il n'a pas à s'excuser. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir, et c'est la force que peut avoir la littérature... Quand il a écrit, il y avait déjà eu des tueries, évidemment. Mais il est venu là comme étant une sorte de capteur du réel à travers une fiction.
C'est bien la preuve de la valeur ajoutée de la littérature face à un tel sujet comme la tuerie de Parkland.
Oui, je pense, mais pas seulement. Vous savez, dans le 1, on a publié des poèmes de... On est le seul hebdo qui publie un poème chaque semaine, grâce à Louis Chevalier. Et un poème de Marguerite Yourcenar à Lampedusa, au lendemain de la guerre. Vous le lisez, vous avez l'impression qu'elle y était la semaine dernière. Donc, ce que je veux dire quand je dis les grands textes sont d'actualité, quand on publie un extrait du discours de la servitude volontaire de la Boétie, on raconte la vie politique française. Quand Laurent Godet, pour le 1, part à Calais et fait un texte magnifique qui s'appelle « Calais, une honte française », c'était il y a plus d'un an, il est cité dans votre revue de presse d'Inter, ça veut dire quoi? Qu'un écrivain peut être cité dans une revue de presse, je trouve ça formidable.
Consécration. Le 1, ça s'appelle comme ça parce qu'il y a un seul sujet par semaine, un seul sujet, plusieurs regards, c'est pas un peu frustrant?
Et une feuille de papier.
Et une seule feuille, c'est pas un peu frustrant pour le journaliste que vous êtes, Eric Fotorino?
Non, parce que si vous voulez, il revient 50 fois dans l'année, donc ça veut dire qu'on fait 50 fois 1. Vous savez, moi je crois à la force des chiffres, Romain Gary disait que le était le chiffre qu'il préférait parce qu'il appelle à être multiplié tout le temps. Et c'est vrai que je pense que ce 1, ça nous redonne l'énergie d'un premier numéro chaque semaine.
Alors c'est aussi peut-être une façon de renoncer pour de bon à l'exhaustivité de l'actualité dans un journal ?
Oui, moi je ne crois pas à l'exhaustivité depuis l'arrivée du numérique. C'est-à-dire le numérique a cette vertu-là, c'est qu'il parle de tout le temps. Après, il faut hiérarchiser, il faut trier, il faut évaluer. Mais quand on est sur un support aussi noble que le papier, pour moi c'est comme la chair de la robe Chanel. C'est-à-dire vous n'imprimez pas n'importe quoi dessus, vous imprimez ce qui vous paraît le plus important, le plus saillant et ce qui va... Vous savez, notre métier, on le fait pour créer du lien. Et ce lien, on le fait à travers cette grande feuille de papier où chacun peut se reconnaître.
Un mot très rapidement, Eric Fotorino. Vous parlez sur votre site internet de graves menaces qui pèsent sur le 1. De quoi s'agit-il ?
Ben, c'est qu'aujourd'hui, il y a un distributeur qui s'appelle Prestalis, qui est en quasi-faillite et qui va prendre jusqu'en 2022 2,25% de notre chiffre d'affaires. C'est une mesure nécessaire, mais elle est très dangereuse pour les petits éditeurs que nous sommes. Je ne suis pas le seul. Hein, Society, Beccaria, etc. sont... Donc voilà, il y a une menace et il faut en tenir compte aujourd'hui.
Merci beaucoup Eric Fotorino. De la violence en Amérique par Stephen King, texte saisissant à lire dans le numéro 4 de la revue America, toujours en kiosque. Le nouveau numéro de votre hebdomadaire qui se déplie, donc c'est le 1 et si on mangeait local, et puis ce hors-série consacré à Clémenceau, immense hors-série si on prend le soin de les déplier en entier. Merci d'être passé nous voir, très belle journée à vous. Grand bien vous fasse, bonjour Ali Réveillé.
Bonjour Dorothée Barba.
Et si on se faisait un peu plus de compliments à soi-même?
Ben, est-ce que vous êtes un peu narcissique?
Je me trouve génial, donc oui.
Mais je le pense aussi, vous savez Dorothée. Alors on va se demander s'il existe un bon et un mauvais narcissisme, comme il existe un bon et un mauvais cholestérol. On essaye d'y voir plus clair. 01 45 24 7000.
Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur.